Bienvenue à Un festin d'idées, un nouveau podcast qui explore la philosophie et les pratiques d'une éducation Charlotte Mason. Moi, c'est Annie.
Et moi, Fanny. Aujourd'hui, nous plongeons dans le vif du sujet, les 20 principes que Charlotte a écrits pour résumer et codifier sa pédagogie. C'est un peu comme son sceau d'approbation pour les pratiques qu'on veut mettre en place. Nous voulons, dans un premier temps, parler plus en détail du premier principe, parce qu'il est à la base de tous les autres, et qu'en l'établissant fermement, tout le reste fera plus de sens et sera solidement ancré dans sa pédagogie. Alors, quel est ce fameux premier principe? Dès leur naissance, les enfants sont déjà des personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire?
Ça semble simple et peut-être banal, mais pourquoi y tenait-elle tant? On est tellement habitués de voir des gens autour de nous que nous prenons rarement le temps de nous arrêter et de contempler à quel point l'être humain est exceptionnel. Tous uniques, créés à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres complets, pas seulement un cerveau, pas seulement un corps, pas seulement un paquet d'émotions. Chaque être humain est complet et complexe, tellement complexe qu'il est difficile de comprendre ou d'expliquer une personne. Nous sommes le mélange parfait de notre personnalité, notre corps, notre esprit, notre bagage émotionnel, notre expérience de vie. Quand on voit un bébé, on ne peut que s'émerveiller du fait qu'il est déjà complet. À aucun moment dans sa vie, ce bébé deviendra un vrai humain. Il l'est déjà. Il grandit, apprend, gagne de l'expérience, mais il était déjà tout là, en entier, dès sa naissance. Rien ne peut lui être ajouté pour être plus lui ou plus humain. Il n'est pas comme le prétendait John Locke, une « empty slate », une page blanche serait l'équivalent en français, ou pour utiliser une image plus actuelle, un disque dur formaté sur lequel il faut ajouter le plus d'informations possible. Pourquoi tant d'emphase sur ça? Pourquoi Charlotte Mason en a-t-elle fait son premier principe? C'est pas comme ça qu'on voyait les enfants ou les bébés à l'époque?
Si on fouille un peu plus, on voit qu'au temps de Charlotte, on voyait plutôt les bébés comme des huîtres. Cette analogie que t'aimes tant. Voici ce que Charlotte avait à dire dans son 6e volume. Les bébés ne sont même plus des miracles, ailleurs que dans les yeux de leurs parents et frères et sœurs. Les enfants s'extasient dans la complétude et perfection de leur petit frère, ses orteils et doigts, ses oreilles et toute autre petite partie parfaite de son corps. Ses parents savent ce qu'ils pourraient devenir et cela leur donne un espoir qu'il pourra un jour faire avancer le monde. Mais pour l'heure actuelle, il a besoin de nourriture, de sommeil, d'un abri et de beaucoup d'amour. Mais est-ce que le bébé est autre chose qu'une huître géante? C'est la question que nous posons et par le passé, des éducateurs ont été enclins de dire que non, le bébé n'est qu'une énorme huître. Leur impression est qu'en pressant ici, qu'en tirant là, qu'en comprimant quelque chose quelque part, ils fabriquent une personne selon le patron qu'ils avaient en tête.
Je crois que des fois, on croit encore qu'il y a des formules magiques. Hein? Fais ceci, fais cela et tu auras un enfant parfait. Ou encore, je pense qu'un livre avec le titre « Réussir en tant que parent en 3 étapes faciles » serait vraiment un best-seller dans notre époque. En fait, on en voit tout plein sur Amazon.
Oui, oui, ça joue avec notre insécurité. Charlotte nous parle d'une autre façon de voir l'enfant. L'autre façon de voir est que le corps d'un nourrisson est la monture d'un bijou, d'une telle valeur que si l'on plaçait l'enfant d'un côté de la balance et le monde entier sur l'autre, l'enfant serait plus lourd que le monde. Charlotte dit aussi, « Enfin, nous ne réalisons pas ce que sont les enfants. On les sous-estime. Selon les Écritures, nous les méprisons, et ce, même avec les meilleures intentions du monde. Le problème est que nous méprenons leur corps physique sous-développé et leur manque de connaissances à propos des relations entre les choses, avec un manque de pouvoir spirituel. Mais il est probablement plus juste de dire que l'intellect n'est jamais aussi vif, la sensibilité morale jamais aussi forte, la perception spirituelle aussi aiguë que pendant l'enfance, ces jours que nous regardons avec un sourire bon mais condescendant. La définition de mépriser selon le dictionnaire est d'avoir une faible opinion, de sous-évaluer. À vrai dire, peu importe combien nous pouvons les apprécier, nous, adultes, avons une opinion beaucoup trop basse des enfants.
Charlotte croyait que l'enfant a son propre esprit. Son éducation ne produira pas son intellect. Il est né avec une soif d'apprendre et tout ce dont il aura besoin pour apprendre. De plus, son cerveau est déjà capable de raisonner et d'imaginer. Tout comme son corps, sa pensée a aussi besoin de la nourriture appropriée pour grandir et devenir fort et en santé. La nourriture de l'esprit, ce sont les idées. Aussi, tout comme son intellect est déjà prêt à fonctionner, son cœur aussi est prêt à aimer. Il est vrai et a une conscience. Il est important de mentionner que Miss Mason met à plusieurs reprises l'emphase sur le fait que tout ça reste vrai, même si l'enfant vient d'un milieu défavorisé. On ne peut pas éduquer l'intellect et ignorer l'âme ou le corps. Nous savons tous qu'on ne peut pas prendre uniquement soin du corps et négliger le cœur. que notre état physique affecte notre état émotionnel et vice-versa. C'est notre rôle d'éduquer l'enfant en entier. Il faut dire qu'à l'époque de Charlotte Mason, ton lieu de naissance, ton statut social, le statut social de tes parents et même la personnalité et les agissements de tes parents étaient comme des condamnations. On assumait qu'un enfant de meurtrier serait meurtrier, qu'un enfant de pauvre serait pauvre, qu'un enfant de médecin aimerait automatiquement étudier la science et que certaines ethnies étaient moins évoluées que d'autres. À cette époque, et peut-être même encore aujourd'hui, certaines classes sociales sont considérées comme inférieures aux autres. Pensons notamment au système de caste en Inde, à notre réaction face aux sans-abri, au racisme et au profilage racial. Charlotte Mason voulait que tous les étudiants soient complets, équilibrés, épanouis. L'idée que les enfants sont des personnes a directement influencé sa pédagogie, sa façon de traiter les enfants et son désir d'offrir une abondance de sujets à l'étude.
Charlotte nous dit « Un enfant est une personne complète, ayant tout son potentiel en lui, présent même en ce moment précis. Son potentiel ne lui est pas enseigné après des années d'efforts de la part de ses enseignants. » Je ne sais pas si cette idée est encore répandue aujourd'hui. Je pense qu'on sait tous que les bébés sont des êtres humains. Mais la façon dont nous voyons les enfants va déterminer notre façon d'agir avec eux. Par exemple, si on croit que l'enfant évolue par stade de développement, ou si au contraire, on croit qu'il grandit au jour le jour, à son rythme, on va le traiter différemment. Si on croit que l'enfant est un bocal ou un disque dur à remplir, on va le traiter différemment que si l'on croit qu'il est déjà complet et prêt pour la vie. On peut facilement brimer la personnalité d'un enfant quand on le considère comme un petit robot ou un disque dur à remplir d'informations.
Par contre, une mauvaise conception courante du premier principe de Charlotte Mason est de mettre trop d'emphase sur l'individualité de l'enfant. Quand nous isolons le premier principe en lui donnant toute l'importance au détriment des 19 autres, nous pouvons tirer toutes sortes de conclusions qui seront nocives pour l'enfant et qui feraient retourner Miss Mason dans sa tombe. Quand elle s'émerveillait devant l'enfant, elle s'émerveillait devant Dieu qui l'a créé, et non devant l'enfant lui-même. C'est important de bien comprendre ce que Charlotte Mason voulait dire par personne. Parce que dans notre contexte, nous employons souvent comme un synonyme les mots « personne » et « individu ». Il est vrai que chaque individu est unique et qu'il faut tenir compte de l'individualité de chacun dans nos interactions, en tout temps et non seulement quand nous enseignons les leçons. Mais quand Charlotte Mason parlait de personne, ce dont elle parlait était de valeur humaine et non d'individualité. Alors, il serait erroné de dire « Je suis d'accord avec Charlotte Mason que les enfants sont des personnes à part entière, donc je laisse mon enfant libre de diriger tous ses apprentissages. » Ce n'est vraiment pas ce qu'elle avait en tête. Avec une approche Charlotte Mason, la période journalière de leçon est relativement courte et l'enfant a beaucoup de temps à investir dans ses passions. L'apprentissage libre a une place importante et il aura la liberté d'évoluer à son rythme. Par contre, dans le principe de Miss Mason et par ses écrits, on comprend que ce qu'elle voulait réellement dire, c'est qu'un enfant est un être humain à part entière et qu'il existe un programme, un tronc commun pour les êtres humains, constitué non pas d'une liste de livres précises, mais de sujets variés, comme les sciences, les arts, les maths, la littérature, l'histoire. Tous ces sujets sont pour chaque être humain. Elle a même dit « Il semble que jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, tous les enfants bénéficient d'un programme scolaire commun. »
Même s'il y avait une liste de livres précises, on s'entend qu'elle ne serait pas pertinente pour nous. De un, on n'est pas dans le même pays. Mm-hmm. On n'est pas à la même époque. Il y a sûrement des belles choses qui se font aujourd'hui qui n'existaient pas là 100 ans, là, qui pourraient être pertinentes aujourd'hui. Je pense que l'emphase sur les sujets est beaucoup plus importante que sur la liste de livres. Mais parfois, elle est rassurante, cette liste de livres-là.
Charlotte elle-même se faisait un point de ne jamais avoir de liste de livres approuvée parce qu'elle voulait justement que les parents aient confiance en leur jugement de choix de livres. Il y avait par contre des programmes qui étaient montés avec certains livres, mais ces livres-là changeaient régulièrement. Donc, son idée, c'est qu'un livre pouvait être bénéfique pour tous ces enfants-là, mais ça ne veut pas dire que ce livre-là était le seul qui pouvait être bon pour enseigner, mettons, les sciences ou l'histoire. Mm. Un programme commun, mais pas un programme coulé dans le ciment.
Oui. Puis que nous, en tant que parents, on peut se permettre d'adapter.
Oui.
On s'entend pour dire que Charlotte ne serait certainement pas en accord avec ce qui se passe dans nos écoles présentement. Soit que tous les enfants passent les mêmes tests et doivent apprendre par cœur une série de faits. Elle en parle d'ailleurs dans le chapitre 20 de son volume 2. Elle décrit le fait que la curiosité naturelle de l'enfant disparaît quand l'enfant est mis en compétition avec ses pairs. Elle croyait que tous les enfants avaient droit à un curriculum diversifié et généreux pour l'amour de la connaissance et non pas par recherche de prouesses intellectuelles. Personne ne peut saisir et comprendre qui il est et quelle est sa place dans ce monde s'il ne connaît rien à propos de lui-même, de Dieu et du monde qui l'entoure. Les enfants ont cette soif de connaître et de comprendre le monde qui les entoure. Charlotte croyait qu'il y avait trois domaines de connaissances qui comprennent tout ce qu'on peut apprendre, soit la connaissance de Dieu, la connaissance de l'homme et la connaissance de l'univers.
Nous nous devons donc d'étaler un festin intellectuel devant l'enfant. L'enfant est responsable de se nourrir et de la quantité à ingérer, mais pas du contenu du festin. Certains enfants vont tout dévorer, d'autres seront des petits moineaux. Nous ne sommes pas responsables de ce qu'ils retiennent et de ce qu'ils font avec ce qu'ils apprennent. Nous devons respecter l'individualité de notre enfant dans notre façon d'agir avec lui. Mais nous sommes premièrement responsables de leur présenter une variété de sujets d'une façon vivante, de créer une atmosphère propice à l'apprentissage et de les aider à développer de bonnes habitudes physiques et mentales. Traiter nos enfants comme des rois est un autre mauvais usage du premier principe. Respecter l'enfant implique de le respecter dans son immaturité et de l'accompagner, pas de le laisser régner. En mettant notre enfant sur un piédestal, nous ne l'accompagnons pas dans son apprentissage et nous ne le préparons pas pour le monde dans lequel il grandit. Nous aborderons peut-être éventuellement le sujet de l'autorité parentale selon Charlotte Mason, mais retenons pour le moment qu'elle croit au concept de l'autorité, comme nous le dit son troisième principe. Les concepts d'autorité et d'obéissance sont vrais pour tous, que les gens l'acceptent ou non. La soumission à l'autorité est nécessaire dans toute société, groupe ou famille pour que tout fonctionne sans problème. Nous devons donc comprendre que pour Charlotte Mason, que l'enfant soit une personne à part entière ne veut pas dire qu'il est en autorité ou que ses désirs sont des absolus. Nous sommes responsables de l'accompagner dans son évolution de bébé à adulte. Alors, comment pouvons-nous bien mettre en place ce principe?
En nourrissant leur esprit correctement, nous nous devons de leur donner à chacun ce qui est vrai, beau et bon. Et ce, de façon généreuse. C'est leur droit en tant que petits humains, parce qu'ils sont nos semblables. Et nous ne devons jamais les manipuler. Nous parlerons prochainement que, selon Miss Mason, il n'y a que trois outils pour éduquer. L'atmosphère, la discipline et la vie. Nous ne pouvons pas utiliser d'autres outils qui contraignent ou manipulent, ou sont donc intrinsèquement irrespectueux. En observant toutes sortes d'enfants et en ne faisant pas de discrimination, Charlotte Mason est arrivée à développer une pédagogie qui s'adapte à l'enfant, peu importe sa réalité, sa personnalité ou son arrière-plan, et qui permet à chacun de s'épanouir et de se dépasser. Alors concrètement, voici des exemples du programme adapté à l'enfant.
Mais en fait, beaucoup de parties du programme vont être complètement laissées libres à l'enfant, comme la narration va être demandée, mais l'enfant est libre de narrer ce que lui a retenu de la lecture. Le livre des siècles ou le Nature Notebook, le carnet nature, va être fait totalement au goût puis à la préférence de l'enfant, malgré qu'il va être requis à chaque semaine, dépendamment du niveau auquel il est rendu. Puis aussi, la progression va être totalement selon la capacité de l'enfant en maths, en grammaire, en écriture. Donc, il n'y aura aucune pression qui va être mise sur l'enfant. Si l'enfant peut aller beaucoup plus vite en maths, puis beaucoup moins en grammaire, bien, ça va être totalement libre à lui. Il va être accompagné de son parent au niveau où il est rendu et non selon son âge ou le niveau scolaire dans lequel il est supposé être.
Mm-hmm. L'idée ici étant d'offrir le festin, oui. Mais que l'enfant prend ce qu'il est capable de prendre puis ce qu'il veut prendre aussi. Exactement. Le parent, lui, son rôle, c'est de dire, bien, aujourd'hui, il y a des maths.
Oui.
Aujourd'hui, tu manges pas tes chinois.
Dans toutes les leçons qui sont faites à partir d'un livre, l'enfant va narrer. Donc, ça va être narré selon ce que lui a appris. Puis dans toutes les leçons qui vont être orales, donc les leçons que le parent donne à l'enfant, comme les maths, la grammaire, bien, ça va être fait au niveau de l'enfant de façon graduelle.
Non, puis je pense aussi qu'il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Hein? Quand on parle de narration, quand on parle de carnet de nature, de ce qu'il va en faire, il n'y aura pas la pression de performer. C'est vraiment pour nous un regard extérieur de voir ce qu'il fait, de ce qu'il comprend, puis ensuite on peut adapter les choses.
Exactement. Donc, le programme, à cause que l'enfant est une personne, va être adapté. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses différentes qui vont découler du fait que l'enfant est une personne. Comme le fait de donner des bons livres aux enfants à lire et non des sottises.
Nous ne devons pas leur parler avec condescendance. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas la même voix et le même vocabulaire qu'on utiliserait avec un adulte?
Bon point. Donc, quand on interagit avec un enfant, il faut le respecter selon sa personnalité aussi. Parce que dans le fond, il est une personne à part entière. Quand on essaie de casser la glace avec des adultes, dans une, peu importe dans quelle situation on peut être, mais on les estime hautement, on essaie de trouver des sujets communs ou des intérêts communs, on pose des questions, on les considère comme, comme des personnes intéressantes, mais je crois qu'on doit interagir avec les enfants de la même façon.
Mm-hmm. C'est sûr qu'au début, c'est un peu malaisant. Hein? C'est pas toujours donné... c'est pas quelque chose qu'on fait toujours de considérer l'enfant comme une personne intéressante.
Mm.
Donc, ça change. Si on part avec ce principe-là, je pense que ça peut changer nos interactions avec lui.
Puis je crois qu'en les connaissant personnellement, oui. en connaissant leur personnalité, ça devient plus facile aussi de poser les bonnes questions ou d'interagir d'une façon adéquate.
Puis toujours avec cette optique-là de respecter l'enfant, on doit utiliser une méthode qui s'adapte à l'enfant plutôt que d'essayer d'adapter l'enfant à la méthode, d'être trop oui. strict, d'être trop légaliste dans notre façon de fonctionner.
Donc, l'enfant doué va être libre d'avancer à son rythme. L'enfant en difficulté va être libre de prendre son temps sans se sentir coupable. Peu importe ses particularités, ses forces, ses limites, chaque enfant peut fleurir.
Mm-hmm. C'est sûr que aussi, si on voit qu'il y a un enfant qui a une passion ou un don, on va l'encourager à poursuivre ses passions, mais pas au détriment des autres matières. On dit matière ici au sens large, là, pas au sens académique seulement. Pour Charlotte, chaque enfant avait le droit d'être introduit à une multitude de sujets. Un grand festin permet de garder les horizons larges. On a tous nos plats préférés, mais on doit quand même manger de façon variée. De plus, c'est bon de se lancer dans ce qu'on réussit bien, mais c'est pas nécessairement bon de toujours exceller dans ce qu'on entreprend. Il faut apprendre à travailler fort pour apprendre la persévérance, la détermination et l'endurance. Puis ça donne l'opportunité de briller et aussi de se dépasser.
Mmh. Aussi, un autre point, c'est qu'il faut pas manquer de respect envers l'enfant en lui donnant l'occasion de s'emmerder pendant ses leçons. Des leçons plates ou ce qu'on dit en anglais du « busy work ». Des feuilles après des feuilles pour passer le temps ou parce que c'était la prochaine feuille à faire dans le programme, c'est vraiment de manquer de respect pour l'enfant.
Mmh. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant va toujours aimer les plats qui vont lui être présentés. On s'entend qu'il y a des enfants qui ont de la difficulté clairement. Avec les mathématiques. Mais je pense que de garder les leçons courtes, ça permet de dire, bon, on fait un effort, 10 minutes, 20 minutes, et ensuite on passe à autre chose. Ça permet à l'enfant de travailler sur sa persévérance, justement sa détermination et son endurance.
Puis en tant que parent, je pense qu'on peut faire la différence aussi entre une leçon emmerdante, puis un enfant qui n'a pas le goût de faire l'effort.
Mm.
Puis on peut travailler avec l'enfant où il est rendu pour l'emmener où il doit aller.
C'est ici qu'entre en jeu l'éducation du caractère, exactement. Comme on parlait plus tôt.
Aussi, dans une éducation Charlotte Mason, comme on en a déjà parlé un peu, il n'y a pas de livre ou de progression précise. Des listes de faits à mémoriser dans un ordre précis, mais seulement des principes universels qui fonctionnent pour tout le monde.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de table de multiplication à apprendre?
Non, pas du tout. On parlera peut-être éventuellement des maths, mais l'enfant doit comprendre le principe avant de mémoriser les faits.
OK. Donc, du concret avant l'abstrait.
Exactement.
Ce qui est unique dans sa pédagogie, parce que chaque personne est unique, c'est que ça permet à l'enfant de retirer de la leçon ce dont il a besoin pour grandir, mais aussi de recevoir une éducation riche et variée telle que chaque humain devrait être en mesure de recevoir. Ce que je vais retirer d'un livre, ce n'est pas ce que mon enfant va en retirer et ce n'est pas ce que tu vas en retirer. Mais nous allons tous être éduqués individuellement quand nous acquérons tous des connaissances qui nous interpellent et nous font grandir, nous, personnellement. Alors, en ce sens, c'est une éducation très individualisée.
Mais attention, les préférences personnelles ne décideront pas du programme. Et en conclusion, les enfants sont comme nous. Dans le sens que si quelque chose est trop plate pour nous, c'est trop plate pour notre enfant. Si quelque chose n'est pas adapté pour nous, ça ne le sera pas pour lui. Puis si on ne traiterait pas un adulte d'une certaine façon, on ne devrait pas traiter l'enfant de cette façon-là non plus.
Je comprends mieux. Quand tu dis les préférences personnelles ne décideront pas du programme...
Ah non, moi, j'ai pas le goût d'étudier l'histoire du Québec. Je trouve ça plate à mort.
OK.
Ah non, les maths, moi, j'aime pas ça.
La politique.
N'importe quoi.
Oui, c'est vrai. Voici pour maintenant. La prochaine fois, nous parlerons des 19 autres principes d'une éducation Charlotte Mason. Ce que nous devons retenir pour aujourd'hui est que nous devons respecter l'enfant, le respecter dans son immaturité, dans son besoin d'être accompagné et stimulé, dans sa personnalité et ses particularités, dans son droit d'avoir accès à une éducation généreuse et variée, et surtout le respecter en tant que créature de Dieu complète et aimée. N'oubliez pas que nous sommes toujours très heureuses d'entendre vos questions et commentaires afin de continuer nos réflexions avec vous. Nous tenterons toujours de répondre aux questions à l'aide des volumes de Charlotte Mason ou de ses articles dans le PNEU pour exposer le plus fidèlement possible ses positions.
Nous vous laissons sur une dernière citation de Miss Mason. Car en effet, l'enfant est un être humain, immature certes, mais peut-être même l'être humain à son meilleur. Qui parmi nous adultes a le don de voir, de savoir, de comprendre, d'imaginer, et les capacités d'aimer, de donner, de croire comme un jeune enfant?